Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups, présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. On est ensemble sur Cowork la radio. On est ensemble dans Objectif Startup, l'émission des startups dans laquelle je reçois des fondateurs de startups qui nous racontent la genèse de leur projet, les étapes importantes, les obstacles aussi. Aujourd'hui, je reçois un fondateur, le fondateur de Rubus Service, Maxence Bauder. Comment ça va ?
Bonjour, ça va bien, merci.
Ça va en pleine forme ?
Très bien, très bien.
Avec cette chaleur ?
Oui, il fait très chaud aujourd'hui, c'est vrai.
Et justement, chaleur, on est un peu dans le thème, hein, le potager clé en main, c'est ce que vous proposez.
Exactement. Chez Rubus, on est une entreprise qui fait des potagers clés en main. Ça veut dire de la conception à la réalisation et derrière surtout l'entretien. On crée des potagers et ça permet d'avoir ses propres légumes, que ce soit à la maison ou en entreprise.
Alors à la maison, donc là déjà vos clients, c'est des particuliers, des entreprises, donc B2B, B2C ?
Exactement. Et on démarche même de manière plus récente les collectivités. Donc c'est trois axes, trois approches différentes au niveau commercial, mais c'est trois cibles qui sont importantes. Donc on est sur une cible qui est périurbaine, autour de Paris. On vise les espaces où il y a généralement des jardins, des espaces verts ou même des espaces à reconvertir. Ça peut être les toits par exemple ou les parkings.
Donc ah, on les parkings, ça marche aussi.
Exactement, les parkings, ça marche aussi. On va faire des potagers en hors-sol, ce qu'on appelle hors-sol. Et ça permet d'avoir des espaces de culture qui sont à proximité.
D'accord. Donc, par exemple, moi, j'habite un appartement. J'aimerais un potager. C'est possible en appartement ou faut que ce soit dans une maison ?
Alors, c'est possible. Nos services sont vraiment destinés aux périurbains avec des maisons et de l'espace. On est sur des potagers qui font au minimum 20 mètres carrés. Oui. Donc, sur un balcon, ça va être compliqué, sauf si la terrasse est assez grande.
C'est immense,
avec plaisir. Mais sinon, pour un balcon, on a aussi un blog sur lequel on fait des articles de temps en temps. Et là, le dernier, d'ailleurs, c'est que faire sur une jardinière sur mon balcon pour avoir des herbes aromatiques. Donc, sur le site internet de Rubus, www.rubusservice.com, on peut trouver justement ces articles sur le blog.
Oui, d'ailleurs, je suis sur votre blog et il y a des très, très belles photos. Il est très joli, ce site. Enfin, c'est un site internet. Hein. Du coup, c'est comme ça qu'on peut vous contacter sur le site internet ?
Exactement. Sur notre page Instagram et Facebook, on a les photos de nos réalisations. Oui. On les a également sur le site. Et donc, via le site, on peut regarder un peu le concept qu'est Rubus, que je vais expliquer un peu par la suite. Et sur le site, donc on peut facilement nous contacter. Et après, l'idée, c'est d'avoir une visite sur place pour mettre à plat, on va dire, les informations, regarder ce qui correspond le plus. Parce qu'on fait des potagers assez sur mesure. Ça veut dire qu'on a, par exemple, des demandes pour des potagers anciens, parfois. Comme
des
il y avait
légumes
dans
anciens, fruits anciens
légumes anciens aussi, après, quand on va créer le potager avec ce qu'on va mettre dessus. Mais même au niveau de la conception, on nous a demandé parfois de réfléchir à des potagers comme ce qu'il y avait dans les monastères à l'époque.
Ah, oui.
Donc, on s'inspire de ces différentes... Ah bah, y a plein de manières de faire un potager. Par exemple, le bois qu'on va utiliser, les potagers anciens, souvent, c'était des bois qui étaient tressés. Ça peut être de l'osier ou du châtaignier, par exemple. Oui. Donc, on va regarder des inspirations comme ça pour moderniser un peu la chose et l'adapter au jardin urbain de demain.
D'accord. Et aujourd'hui, là, vous parlez du site internet, d'Instagram. Vos clients, ils vous contactent où en premier ?
Généralement sur le site internet, notre clientèle, je dirais que c'est plutôt 40-65 en niveau âge, donc Instagram c'est pas trop ça, mais il y en a quand même certains dessus, exactement, donc c'est surtout Facebook et plutôt le site internet.
Facebook ça marche bien aussi.
Ouais, LinkedIn aussi, hein, beaucoup.
Ah,
c'est,
oui.
Ouais. Le potager clé en main pour le particulier plaît beaucoup dans le sens où c'est une clientèle, soit qu'il y a des enfants, donc elle a la volonté de transmettre un savoir-faire et quand on vient faire l'entretien tous les mois, il y a justement les experts qui sont là sur les potagers et qui vont parler avec les enfants, échanger aussi. L'idée, c'est d'avoir vraiment un esprit convivial hein, sur l'entreprise et sur le suivi avec nos clients. Et on a une clientèle qui est entre la clientèle avec des jeunes enfants en bas âge ou alors une clientèle d'affaires qui n'a pas le temps, tout simplement.
Mmh, mais qui veut bien manger.
Exactement, qui travaille beaucoup déjà et qui n'a pas le temps. C'est beaucoup d'entretien, le potager. Au niveau des semences, il faut regarder ce qu'on veut, etc. Donc nous, on fait toute cette sélection, ils n'ont plus qu'à choisir derrière ce qu'ils veulent planter. On vient, on le plante tous les mois et derrière, il n'y a plus que l'arrosage à gérer, donc la plus grosse partie est faite.
Donc les particuliers qui font appel à vous ou même les entreprises n'ont que l'arrosage à faire ?
l'arrosage à faire. Les entreprises qui les intéressent chez nous, c'est justement ce suivi avec l'entretien. On va faire les entretiens et des ateliers team building en même temps pour pouvoir accueillir les participants, les volontaires, des collaborateurs qui sont présents, généralement sur la pause déjeuner pour qu'ils puissent venir poser leurs questions, des choses à refaire à la maison oui. ou même à prendre sur place. Donc on a plusieurs thématiques sur l'entreprise. Il y a par exemple des hôpitaux et des cliniques qui sont intéressés aujourd'hui. Ça, c'est plutôt pour des jardins thérapeutiques.
D'accord.
Donc l'hôpital et la clinique, ça, c'est un autre sujet parce qu'en interne, ils ont des collaborateurs, eux, qui sont intéressés par l'esprit QVT, RSE, etc. Et il y a aussi les patients, la patientèle qui est présente sur l'hôpital, qui a besoin aujourd'hui de retourner sur le jardin. Il y a des études qui arrivent de plus en plus récentes sur justement les bienfaits du jardinage au niveau de la rééducation pour les patientèles. La patientèle qui est généralement récurrente dans un hôpital, ça devient aujourd'hui des sujets qui sont en train de regarder.
D'accord, ça fait du bien en fait de jardiner ou de
Exactement.
Prendre des cours de jardinage.
Exactement. Et voilà, être au jardin, on fait du sport sans s'en rendre compte finalement. Donc pour les personnes qui sont en rééducation...
C'est vrai que c'est physique.
Ouais, voilà. Pour des personnes qui sont en rééducation, on va pouvoir faire des différents modules justement pour qu'ils puissent, au fil de leur rééducation, reprendre un peu la main, que ce soit le mouvement au jardin et se réapproprier un peu leur corps, quoi. Donc il y a plein de thématiques comme ça sur lesquelles on travaille avec différents clients, différentes typologies. Et l'idée de Rubus, c'est vraiment de s'adapter de manière sur mesure, donc dès la conception et derrière pour l'entretien aussi avec les team building.
Et alors comment ça marche? C'est sous forme d'abonnement du coup pour vos clients? Il paye chaque mois?
Exactement. Donc il y a un premier volet qui est la création pour le coup. Comme c'est du sur-mesure, on ne peut pas déterminer un tarif au préalable.
Oui, ça dépend quoi? De la grosseur du potager, des légumes, des fruits qu'on met?
Les fruits et légumes sont inclus dans la création, mais c'est vraiment la structure pour le coup. S'il faut refaire par exemple le sol, s'il faut reconvertir un parking...
Il n'y a pas des graines qui coûtent plus cher que d'autres?
Oui, mais ça s'équilibre finalement.
C'est pas,
donc c'est pas ce qui va faire jouer vraiment le prix.
Ouais.
Ce qui va faire jouer le prix, c'est vraiment les modules, les bois qui sont choisis par exemple.
Mm-hmm.
Est-ce que ça va être des bois plutôt précieux ou d'autres sur lesquels on va essayer d'aller à l'essentiel? Donc voilà, c'est ça qui va vraiment faire varier le coût. Et puis les surfaces. On a travaillé sur des surfaces entre 20 mètres carrés et d'autres sur 3000 mètres carrés. C'est pas la même chose.
Le plus grand que vous ayez fait, c'est ça, c'est 3000 mètres carrés.
Ça, c'était des conceptions, réalisations, c'est des projets sur le plus long terme, donc qui sont en cours. Et après, derrière, donc il y a un deuxième point, c'est le forfait d'entretien. Pour le particulier, on commence à 100 € par mois, sachant que c'est des services à la personne, ça revient à 50 € par mois au final.
On défiscalise.
Exactement. Ouais. Donc pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne une fois par mois, passer 1 à 2 heures sur le potager, l'entretenir et derrière qu'il n'y ait plus que l'arrosage à gérer, c'est assez cool quand même. Et pour l'entreprise, ça, c'est des forfaits qui sont à la carte en fonction du nombre de team building qu'on va faire par mois, l'entretien, et on voit en fonction ce que l'entreprise veut.
Donc ça, vous définissez avec l'entreprise, en fait.
Exactement.
Elles peuvent vous dire, nous, on a tant de budget et vous lui faites quelque chose sur mesure.
Exactement. Le cahier des charges est vraiment adapté. Et c'est la force de notre entreprise, c'est qu'on fait du sur mesure. Il y a un suivi derrière qui est carré et il y a surtout un suivi qui est adapté pour la structure.
Aujourd'hui, Rubus, c'est combien de collaborateurs?
Alors aujourd'hui, on est cinq collaborateurs. Il y a certaines personnes qui sont sur la partie paysage, donc conception, réalisation des potagers, et derrière sur le suivi également. Et après, on a donc sur le back-office, il y a moi-même et également une partie d'équipe qui aide sur le back-office pour les travaux au quotidien, pour que l'affaire soit organisée et roule. C'est très important parce que c'est une grosse logistique.
Et
on s'en rend pas compte, mais... Oui, ça roule. On peut voir sur Google qu'il y a des retours des clients. Ils ne sont pas forcément à fond sur les réseaux aujourd'hui, sur les reviews, etc. Mais les seuls qui en ont donné sont excellents et les retours qu'on a au quotidien sont hyper agréables. Franchement, c'est une belle aventure et on est assez proche de nos clients, justement. D'où la personnalisation, le lien qui est vraiment entretenu au fil des mois. Donc, ils sont ravis et on l'est également.
Comment vous est venue cette idée, alors? Comment c'est venu? Je vais créer une start-up qui propose des potagers sur mesure, clés en main. Comment avez-vous eu cette idée?
Alors, c'est une idée un peu particulière. Déjà, j'ai mon frère qui a fait des études de paysagiste.
Ouais.
Donc, j'en entendais parler un peu de ça à la maison.
Et vous étiez sensible
assez souvent
à ça?
Voilà. Et je me suis dit que... dans la famille, la plupart travaillent beaucoup, sont pas trop à la maison et adoreraient avoir un potager, mais ça demande énormément d'entretien.
Oui.
Donc je me suis dit, c'est dingue qu'aujourd'hui, il n'y ait pas un spécialiste sur ce sujet qui est le potager, pour pouvoir, créer un beau potager, et deux, venir l'entretenir derrière, pour qu'on puisse choisir les légumes qu'on veut, quelqu'un les plante, et qu'on puisse derrière faire ses récoltes. Moi, je suis quelqu'un aussi qui, personnellement, suis très sensible aux bons produits. J'adore ça. Mon plat préféré, c'est la tomate mozza, mais avec juste des bonnes tomates, un bon basilic, une bonne huile d'olive, des vrais produits comme ça. Et au niveau du potager, c'est un peu ce qu'on va pouvoir faire, justement. C'est d'avoir une transparence totale sur le jardin, avec des légumes qu'on a fait grandir nous-mêmes sans aucun intrant chimique et qui, derrière, au goût, sont exceptionnels.
On sent la différence.
Ah, franchement, bah, en fait, c'est cueilli le soir même pour être dégusté juste après. Donc... C'est ultra frais.
Mais c'est vrai, quand on a un potager, on ne peut plus acheter ces fruits et légumes dans les grandes surfaces. On sent vraiment qu'il y a une différence, quoi.
Ouais, ouais, c'est sûr. Après, il faut des grandes surfaces si on veut vraiment se nourrir. Oui. Donc là, le potager qu'on fait, on va vraiment focaliser exactement sur les légumes qu'ils préfèrent. Comme ça, on va pouvoir avoir une production qui est hyper ciblée et qui est consommée régulièrement dans la famille. Et après, c'est vrai que bon, il faudrait des énormes surfaces, par exemple les pommes de terre, sur des petits potagers urbains de 20 mètres carrés. Ça va être très compliqué d'avoir une production intéressante. Donc, on va plutôt partir sur d'autres produits.
Et quels sont justement les fruits et légumes les plus demandés ?
Bon, clairement, la star, c'est la tomate.
Ouais, j'imagine.
Voilà.
Alors, pour le coup, la tomate, quand on en a dans son potager, c'est compliqué d'en acheter en grande surface. Moi, je trouve qu'elles n'ont pas de goût.
C'est vrai.
C'est compliqué, hein. Mais
comme on les, au niveau de l'eau aussi, il y a tout un travail qui est fait lors de la conception pour pouvoir justement optimiser l'arrosage. Et les tomates qu'on a en supermarché, elles sont gorgées d'eau, donc.
Ouais.
Plus on va arroser le fruit, plus il va être, plus il va avoir de l'eau, donc moins les goûts seront concentrés finalement.
Ouais.
Donc là, avec son potager, on peut gérer aussi ça. Les fruits sont certes plus petits, et c'est là où on se rend compte aussi des différences d'un industriel versus un fruit naturel qu'on fait grandir à la maison. Mais les goûts, par contre, n'ont rien à voir.
Ouais. Donc la tomate, la star numéro 1, ensuite il y a quoi
En ce moment, du coup, on est à l'été, il y a le basilic, bien sûr, ultra demandé. On a plusieurs variétés de basilic, basilic citron, basilic grand vert, basilic mammouth, basilic pourpre. Donc ça, c'est vraiment
même pas tout ça.
Hyper demandé. Ah oui, on a des milliers de variétés. Après, ce qui est très demandé aussi, c'est les courgettes.
Ouais.
Finalement, on est très méditerranéen en France, quand même, au niveau de l'alimentation. Donc ça, c'est les légumes les plus demandés. Après, il y a toutes les herbes aromatiques, bien sûr. Donc le persil, l'estragon aussi. Et la sauge. La sauge, par exemple. Sauge qui se trouve très peu de manière fraîche.
Qui est moins
fraîche.
Connue aussi.
Ouais.
Mais moins utilisée, peut-être.
C'est vrai. C'est moins utilisé et ça se trouve très peu de manière fraîche en supermarché.
Ouais.
Je vous mets au défi d'aller chercher de la sauge fraîche quelque part.
On la trouve souvent séchée pour les infusions de sauge, mais... Mais c'est vrai que fraîche...
Exactement. Et là, c'est l'opportunité justement d'avoir des herbes fraîches à la maison. L'estragon frais, hyper rare, pareil. Donc là, on peut vraiment tout avoir frais à la maison. Donc ça, c'est ce qu'on nous demande généralement.
D'accord. Du coup, alors, comment, l'été. Comment vous avez vécu le confinement ? Est-ce que ça a explosé ? Est-ce que vous avez senti une demande supplémentaire depuis la fin là, de la crise ? Est-ce que les gens veulent à tout prix planter chez eux ?
Ouais, alors nous, ça a été un peu justement une étape après le confinement.
Ça fait combien de temps qu'elle existe du coup
Ça fait 2 ans qu'on existe déjà, donc ça a été lancé juste avant le confinement.
Le coronavirus.
Le confinement a été une période où les gens se sont mis à faire leur potager, ils se sont intéressés à ce sujet. Et aujourd'hui, il y a certains clients au final qui sont ceux qui ont essayé pour la première fois pendant le confinement, qui ont compris que ça demandait énormément de travail, surtout pour être continué à l'automne, à l'hiver. À l'hiver, on prépare déjà le printemps. Donc voilà. Donc ces clients ont compris et derrière, ils n'avaient pas le temps, donc ils nous ont laissé gérer finalement les jardins.
D'accord. Donc en fait, ils ont commencé seuls pendant le confinement et ils ont voulu continuer, donc ils font appel à vous.
Bah ouais, comme c'était beaucoup de boulot, ils ont commencé, c'était amusant un mois, ils ont eu les premières tomates, mais après voilà, il faut savoir tailler les tomates, il faut savoir faire les associations de culture, tout ça pour optimiser sur des petites surfaces dans les jardins urbains. Donc là, ils ont vu que c'était quand même pas mal de travail, aller chercher les plants, les semences, etc. Donc tout ça, on le prend en charge et c'est pour ça qu'on récupère finalement beaucoup de clients qui ont essayé pendant le premier confinement et qui ont vu que c'était trop de travail, mais qui ont quand même aimé l'idée, donc qui ont fait appel à nous.
D'accord. Comment s'est passée du coup la création de votre start-up ? Vous faisiez quoi avant ? Quel était votre parcours ?
Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique. Je travaillais en finance avant.
D'accord.
J'ai commencé à travailler à Singapour, donc je n'étais pas en France. Et j'avoue que la France me manquait quand même, donc je suis rentré après. Et quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu qui était la finance, je trouvais ça assez linéaire et J'ai pas pu patienter plus longtemps.
Et alors, la finance, c'est quoi? Vous faisiez quoi? Parce que c'est vaste, la finance.
Ouais, j'étais en évaluation financière, donc c'était vraiment analytique sur toute la partie valorisation des entreprises, donc voir combien une entreprise vaut, les différentes mises en place de packages, par exemple, quand il y a des employés, des salariés qui vont, sur plein d'opérations différentes. Donc c'était assez intéressant, c'était très technique, mais au final, je voulais un projet qui puisse quand même être assez ludique aussi, qui soit fun à faire. Et là, avec le potager, c'est quand même un sujet qui est d'actualité, je pense, et qui est assez ludique et qui est vraiment super.
Donc vous étiez à Singapour, après comment ça s'est passé l'enchaînement? Vous êtes revenu en
France? Après je suis rentré en France, j'avais mon stage de fin d'études à faire, je l'ai fait et je pouvais pas attendre
c'était
plus longtemps.
C'était quoi? C'était quelles études? Une école
C'était une école de commerce, j'ai fait l'IESEG, l'IESEG School of Management, qui est à Paris et à Lille également. Au cours de mes études, j'ai pu vivre en Norvège, aux États-Unis également. Et après, j'ai commencé à travailler à Singapour, je suis rentré en France pour mon dernier stage. Et derrière, j'ai enchaîné avec Rubus Service justement, qui est né... à la fin de mes études, si vous voulez.
Pourquoi Rubus comme nom?
Alors Rubus, ça veut dire la ronce en latin.
D'accord.
Donc quand on voit une variété de framboises, parfois, il y en a une qui est Rubus ideus, et ça veut dire la ronce en fait. Et j'aimais bien cette image de la ronce que personne n'aime, qui pique, qui fait mal, mais au final qui donne des fruits tellement délicats qu'on aime tous, enfin la plupart, qui est les framboises et que j'adore aussi. Donc voilà l'idée de Rubus, et c'est simple aussi.
Et quand vous étiez à l'école, à l'IESEG, vous aviez envie déjà de devenir entrepreneur, d'être à votre... Enfin, c'était déjà clair dans votre tête ou vous vous laissiez le choix de voir peut-être salarié Qu'est-ce que vous vous disiez à ce moment-là?
C'est une bonne question parce qu'au départ, le plan théorique, on va dire, comme beaucoup de gens, c'est de commencer justement dans une entreprise, prendre en expérience. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pouvais plus tarder à l'intérieur pour lancer un projet. Mais c'est toujours ce que j'ai envie de faire, pardon.
Donc ça, c'était une idée que vous aviez déjà avant vos études, le potager?
Oui, c'est né quand même en parallèle justement de ma dernière mission en finance, où j'ai fait des formations après avec différentes personnes, notamment Charles et Perrine Hervé Gruyer, qui sont à la ferme du Bec et Loin, qui sont aujourd'hui reconnus comme les chefs de file de la permaculture en France. Donc ça, c'est une formation continue, on va dire, qui a été faite en fond pendant que je continuais à travailler. Et l'objectif numéro un, c'était quand même de lancer finalement un projet. Et j'ai pas pu patienter 2 ans, comme sur le papier, je voulais le faire de base.
Vous aviez senti que c'était le moment.
J'ai senti que c'était le moment. J'avais envie d'adrénaline un peu au quotidien. Et il y en a beaucoup en tant que chef d'entreprise aujourd'hui. Que ce soit de la bonne ou parfois des moments un peu plus difficiles à traverser. Il y a des doutes, il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est vraiment une aventure dans laquelle on apprend énormément. Et je ne regrette en rien ce choix aujourd'hui.
Donc vous aimez les sensations fortes?
Ah ouais, ouais, ça c'est sûr.
Vous n'aimez pas la routine
C'est en tant que chef d'entreprise, je pense qu'il faut aimer le challenge quand même. C'est quotidien de toute façon. Les équipes, c'est de l'humain, donc il y a quand même beaucoup de choses à gérer, en plus du produit, en plus du suivi, en plus de plein de choses à mettre en place. Donc c'est vraiment un travail quotidien, on va dire, qui est fait de surprises, mais que ce soit des bonnes ou des moins bonnes. Mais c'est là où on apprend aussi. J'ai beaucoup appris sur moi-même en faisant cet exercice de me créer une entreprise de zéro, justement. Et c'est quelque chose que je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans une entreprise ou qui hésite, c'est qu'il faut y aller. Il
faut se lancer. Qu'est-ce que vous avez appris justement sur vous-même ou sur les autres?
La patience.
Ah oui, patient.
Oui, oui. Il y a eu le Covid qui est passé par là.
Oui.
Et quand on monte une entreprise, justement, pendant tous les confinements successifs, etc., il faut quand même être patient. Pénétrer un marché, un nouveau marché en plus qu'est le potager, c'est un exercice qui est assez coriace. Donc il faut s'accrocher et il faut être patient pour ça. Et donc le coronavirus a amplifié, je pense, ce phénomène de lenteur des opérations et de lancement. Mais
tout était à l'arrêt, en fait.
Exactement.
Le confinement.
Exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, en tout cas, sur Rubus jusqu'alors, c'est la patience. Il faut prévoir des buffers quand on lance son projet, au niveau des timings, au niveau financier aussi.
Ça n'avance pas toujours comme on veut, en fait.
Exactement. Et après, il y a des moments où ça finit par se décrocher et par avancer. Donc, il faut être patient et ça, c'est quelque chose que j'ai appris.
Est-ce qu'il y a eu des coups durs, des moments, des envies d'abandonner?
Oui, au début, forcément, c'est une industrie que je ne maîtrisais pas de base. On s'apparente un peu à une entreprise de paysage au départ, donc il fallait maîtriser tout l'aspect technique. Donc quand on va organiser un chantier, par exemple, les premiers, c'était tout un exercice qu'aujourd'hui on connaît très bien, donc il n'y a pas de problème.
Et comment vous avez appris ça?
Ah, sur le tas, il faut y aller. Il faut,
vous avez pris des cours des...
Je vous ai dit déjà, mon frère qui a fait ses études-là, donc il connaît un peu comment ça se passe. Donc là-dessus, j'ai été assez bien entouré. Mais voilà, il y a la manière de faire aussi. Ça me semble assez logique dans la façon d'organiser la chose. Mais c'est quand même tout un travail et c'est parfois très dur, même physiquement. Hein. Les premiers, il n'y avait pas 5 personnes qui étaient là pour nous aider sur les différents sujets. Donc c'était à moi de faire le potager, d'aller l'entretenir derrière, donc d'être en polo sur le potager le matin avec les clients, de changer, d'avoir une chemise l'après-midi pour aller faire d'autres rendez-vous, etc. Donc c'est vraiment un travail à 1000 à l'heure et c'est là où on se dit qu'à la fin de la journée, on a une journée qui est passée très vite. On a fait 4 rendez-vous, on a entretenu 3 potagers et on a avancé. Donc c'est un rythme assez intense.
Et là aujourd'hui, vous êtes entouré de collaborateurs. Est-ce que ça a été compliqué de les choisir, ces collaborateurs, ou pas ?
Oui et non, moi c'est un exercice que j'aime faire, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Après, comme on est basé à Cergy, c'est quand même un facteur important. On sait qu'il y a un pool de talents quand même qui est assez important à Paris et il y en a d'autres qui sont aussi présents autour de Cergy, autour de Paris, mais il faut les attirer, ces talents. Donc on a un produit qui est quand même assez fort, hein, qui est le potager, auprès des particuliers, des entreprises et des collectivités. La mission derrière Ubus, elle est assez forte aussi. Au niveau des collectivités, par exemple, c'est tout le travail sur l'éducation des habitants sur les villes sur lesquelles on va travailler. Donc on attire, on va dire, au niveau des ressources humaines. Après, voilà, c'est une équipe qui est très jeune quand même et c'est un exercice de convaincre des personnes de venir à 30 minutes de Paris travailler tous les matins. On a 2 Parisiens dans l'équipe notamment. Voilà, c'est un exercice, mais ça se passe.
Oui, c'est plutôt l'exercice inverse qu'on voit, mais c'est
exactement,
vrai que ça se fait aussi. Justement, là, vous disiez, on est une équipe jeune. C'est quoi, jeune ?
Ah, moyenne d'âge, ça doit être 28 ans, je pense.
Oui.
Donc, c'est très jeune quand même. Mais après, on est...
Et c'est des métiers qui plaisent aujourd'hui, selon vous, paysagistes, ils trouvent beaucoup de jeunes intéressés par ça ?
Oui, de plus en
ça
plus.
Plaît.
De plus en plus, justement, il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui se lancent dans ces carrières, tournées vers la nature, vers l'écologie. Donc je pense que la nature en ville, pour moi, c'est une des cartes fortes de demain, justement.
On en a besoin, oui.
Exactement. Donc il y a un vrai travail de réflexion à faire là-dessus. Même au niveau des écoles de paysagisme qui existent, il y a de plus en plus de masters un peu spécialisés, justement, sur la biodiversité en ville, urbaine, etc. Donc c'est des métiers qui attirent aujourd'hui de plus en plus. Et même les profils qu'on a dans l'équipe, il y en a 2 d'école de commerce, par exemple.
Oui.
Donc, c'est des profils généralistes et qui, sur le produit qu'ils vont vouloir toucher au quotidien, sont intéressés par ces thématiques, par ces problématiques.
Et vous parliez de collectivités aujourd'hui. Quelles sont les collectivités intéressées par Ubus ?
Alors, c'est un travail sur le long terme, la collectivité. Quand je vous parlais de patience tout à l'heure, ça fait partie aussi de l'exercice, la collectivité. On découvre le millefeuille administratif français qui est
très embêtant.
Voilà. Donc, c'est des sujets qui sont assez importants. Donc, ça prend du temps à mettre en place, mais on sera assez fiers lorsque les premiers verront le jour, justement.
Donc là, c'est en cours, en fait.
Exactement. Donc, c'est en cours. Ça prend du temps, que ce soit la contractualisation, même derrière la réalisation. C'est des travaux qui sont beaucoup plus importants aussi que pour un particulier ou pour une entreprise. Et la mission aussi, dans le fond, est aussi plus réfléchie. Donc c'est pour notamment les écoles et les habitants. Donc apprendre aux habitants à faire sur leur jardin, si c'est des villes où il y a du périurbain, enfin, des gens avec des jardins, etc. Ou alors avoir les écoles qui soient dans la boucle, donc avec un travail sur l'éducation au niveau des enfants notamment, éducation au développement durable au sens large. On est spécialisé sur le potager, mais quand on va créer un potager justement pour une ville, l'idée c'est d'avoir aussi par exemple du compost, derrière un travail sur l'eau aussi qui est fait, et qu'on puisse aborder ces différents thèmes
oui,
à l'école finalement.
Oui, tout est lié en fait.
Exactement.
D'accord. À long terme, idéalement, moyen et long terme, vous aimeriez être juste auprès des entreprises, des collectivités ou continuer le B2C ?
Alors, notre cœur de cible, c'est vraiment pour le coup les entreprises et les collectivités. Mais le particulier, c'est ce qui nous a permis de démarrer,
ouais.
Justement. On sera ravis de continuer. Nous, on est vraiment à l'échelle locale pour le moment. Si l'entreprise était amenée à se développer, ce serait aussi un développement ultra local qui se ferait autour des métropoles. Donc ça, c'est des choses, finalement, le particulier, s'ils sont intéressés, avec grand plaisir.
D'accord, donc ça restera accessible aux particuliers.
Exactement.
Tout à l'heure, vous parliez de la famille. Est-ce que de vos proches, donc votre frère qui a fait des études de paysagiste, est-ce que vos parents, vos proches vous ont soutenu dans cette étape, en fait, le lancement d'une start-up ?
Forcément, c'est très important. Je pense que avoir la chance d'avoir des parents derrière qui aident au quotidien, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc oui, ils m'ont soutenu aujourd'hui. Ils sont supporters de l'idée, etc., bien sûr. Donc ça, c'est très agréable. Et après, voilà, l'idée fait son bonhomme de chemin. On a aujourd'hui 5, donc ça prend petit à petit forme. Et c'est agréable aussi pour eux de voir ça.
On a l'impression que, quand on vous entend, que c'est simple, c'est fluide. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont faits pour l'entrepreneuriat et d'autres peut-être pas ? Ou c'est accessible pour tout le monde ?
Je pense que c'est accessible à tout le monde. Chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Si ça paraît simple, justement, moi, c'est ce que je dis à chaque fois en interne, c'est que si ça paraît simple, c'est que le travail est bien fait au final.
Ouais.
Si on n'a pas de retour négatif, voire pas de retour positif, voire zéro retour, c'est que le travail est bien fait finalement. Donc faire que les choses soient simples et paraissent simples, c'est notre travail. Le potager, ça paraît hyper simple. Justement, de créer un potager, d'avoir le potager derrière qui est entretenu, etc. Mais je vous mets au défi de faire une saison au potager et on va voir que c'est finalement un autre discours. Donc nos produits qu'on met en valeur justement sur les réseaux sociaux, sur le site internet, ça paraît hyper simple, mais en fait il y a énormément de travail qui est derrière. Que ce soit au niveau de la logistique, d'aller trouver les fournisseurs, ça m'a pris 6 mois de trouver des fournisseurs qui font des semences et des plants naturels. Donc voilà.
Ça, il n'y a pas eu pénurie pendant le confinement ?
Non, même ils ont augmenté leur production. D'accord. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui recherchaient des plants et des semences pour faire leur potager.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous changeriez, quelque chose que vous aimeriez refaire, une étape peut-être qui s'est moins bien déroulée, avec le recul vous vous dites « ah ben j'aurais pas dû faire comme ça ».
Il y en a une, et d'ailleurs ça s'est pas fait comme ça, donc j'ai eu de la chance au dernier moment de pas le faire. C'est au tout début de la start-up, voilà, je voulais m'entourer d'une personne qui puisse m'aider sur le potager pour le coup, avec les premiers qu'on avait. Mais c'est là où l'entrepreneuriat aussi, il faut aller chercher des informations autour de soi, aller chercher des conseils auprès de gens qui ont un peu plus d'expérience que soi. Et on m'a conseillé de ne pas prendre cette personne, de continuer le labeur justement d'être sur les potagers et de le faire moi-même et de prendre par contre quelqu'un sur la mission commerciale. Mmh. C'est ce que j'ai fait et c'est une erreur, je pense, qui m'aurait coûté un peu d'argent parce qu'au final, la partie commerciale, c'est quand même la principale. C'est celle qui permet de développer l'entreprise, celle qui permet de vivre.
Donc, elle est primordiale selon vous ?
Ah, pour moi, c'est le centre de l'entreprise. Si on vend pas, finalement, derrière, les ressources ne suivent pas. Donc, on peut avoir le meilleur produit possible. Si on n'arrive pas à le vendre, c'est très compliqué de survivre.
Du coup, cette erreur...
Du coup, cette erreur ne s'est pas produite, ne s'est pas matérialisée, mais j'ai failli la faire. Et pendant quelques semaines, voire mois, j'étais à la recherche d'une personne comme ça. Et au dernier moment, j'ai coupé avec... Ce contrat qui était à venir, qui ne s'est pas fait, pour me concentrer sur autre chose. Donc le bateau, si vous voulez, a fait un 180 degrés pour partir dans une autre direction. Et c'est ça qui a été intéressant, justement.
Et pourquoi vous l'aviez senti ou...
Ben justement, je vous ai dit, j'ai pris les conseils de personnes qui m'entouraient et je pense qu'ils sont plus légitimes que moi au niveau de l'entreprise.
C'est qui ces personnes ? C'était...
Il y a des chefs d'entreprise dedans, il y a des gens qui sont, qui accompagnent des startups depuis longtemps et c'est là où il faut aller rechercher les infos quand on a un peu des doutes justement sur est-ce que ça va bien se passer. Parce que salarier quelqu'un en France en particulier, c'est quand même des engagements qui sont importants. Donc il faut faire, je pense, très attention aux personnes qui nous entourent, qui nous rejoignent dans l'équipe. Et la première, en plus, personne est assez déterminante, finalement.
Bien sûr.
Que ce soit au niveau des coûts, parce que ça nous paraît énorme, monstrueux au début, quand on peut se permettre à peine de payer quelqu'un.
Ouais.
Donc, et avoir en plus une personne qui n'est pas la plus intéressante à avoir dans l'entreprise, ça aurait été une erreur, je pense, qui aurait
Bien
coûté
sûr.
Cher.
Quel conseil vous donneriez à des futurs start-upers, des gens qui hésitent à se lancer ?
Alors, conseil, je sais pas, parce que je fais encore partie des tout jeunes qui apprennent encore l'exercice. Donc, franchement, je pense que je suis pas trop légitime pour donner des conseils. Mais au niveau
De votre expérience,
de ce qu'on pourrait
personnel.
Dire, voilà, c'est comme j'ai dit au départ, c'est go.
Allez-y, foncez.
Ouais, franchement, il y a tout à apprendre. Bon, il faut être pragmatique sur la situation financière, dans le sens où c'est quand même des engagements importants là-dessus.
Ouais.
Mais si on a la possibilité de le faire, il y a toujours des moyens de le faire. Il y a énormément de subventions aujourd'hui. Il y a énormément de moyens de trouver des financements aujourd'hui. Je pense qu'il faut se lancer et avoir un produit qu'on aime et qu'on puisse vendre derrière, justement.
Dans lequel il faut croire.
Exactement.
Très bien. Merci beaucoup, Maxence Bodard. Je rappelle que vous êtes fondateur de Rubus Service, hein, le potager clé en main, à retrouver sur Instagram, vous l'avez dit, LinkedIn, et sur rubusservice.com, pardon, rubusservice au pluriel, service.com. Merci beaucoup d'être venu dans Objectif Startup, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.